Vous êtes sur RTL.
Elle vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
C'est exactement ça. RTL vous
régale
jusqu'à midi et demi et c'est en direct sur l'antenne d'RTL. Soyez les bienvenus, bonjour à tous. La caravane réfrigérée, c'est un peu comme le Tour de France et les caravanes publicitaires. Eux jettent des casquettes,
des bobs
qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va jeter aujourd'hui?
Plein de choses.
Ah, vous allez voir.
Plein de bonnes choses.
Moi, je serai vous, je resterai dans notre sillage parce que ça va être la régalade absolue. Hier, la Côte d'Opale, aujourd'hui, le pays d'Iroise, on est en Bretagne. Je le disais il y a un instant, on sera à la pointe extrême du Finistère, à l'ouest de Brest, face à l'archipel de Molène et l'île d'Ouessant, paysage maritime, des phares, des bateaux, des tempêtes, mais pas que. Alors, l'Iroise, c'est pas forcément un endroit qu'on situe facilement, Jean-Seb.
La mer d'Iroise, c'est la zone de jonction entre la Manche et l'océan Atlantique. C'est un morceau de mer qui baigne la côte de Ouessant jusqu'à l'île de Sein, une des mers réputées pour être parmi les plus dangereuses d'Europe, continuellement animée par des courants qui sont souvent vicieux, émaillés de nombreux récifs qui font de la navigation une véritable épreuve de force. Pas étonnant qu'il y ait donc ce dicton qui voit Molène voit sa peine, qui voit Ouessant voit son sang, qui voit Sein voit sa fin. Le pays d'Iroise, lui, en revanche, est beaucoup plus calme. Mais il n'en est pas moins beau. On est à une encablure de Brest. C'est une région solidement ancrée dans la tradition où l'authenticité n'est pas un vain mot. C'est une côte qui bénéficie d'un microclimat tellement flagrant que dès le premier rayon de soleil, ça devient la Riviera brestoise. Parce qu'ils sont nombreux ceux qui veulent profiter de la beauté, des pointes, des falaises, des plages de sable blanc. L'épicentre de ce pays d'Iroise, c'est Saint-Renan, avec sa place du Vieux-Marché, avec son église Notre-Dame de Liesse. Le Conquet, c'est un petit port de pêche bourré de charme avec encore quelques vieilles demeures de négociants et d'armateurs. C'est aussi le Conquet, le port d'embarquement le plus proche de Ouessant et de Molène. C'est du Conquet qu'on part randonner vers la pointe Saint-Mathieu, une de ces pointes qui émaille tout ce littoral. Le chemin fleure bon, le goémon, on est sûr de respirer à plein poumon. On se retrouve sur le sentier des douaniers et justement les témoins de la culture du goémon sont toujours en place. Sur le bord de la falaise, vous avez des grosses dalles percées. Sont des pierres à goémon. Elles servaient à remonter cette herbe qu'on utilisait comme engrais pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est le port de Molène qui est devenu le premier port européen pour la culture du goémon. C'est cette petite île qui s'est reconvertie.
C'est une terre authentique. Hein.
Non, mais c'est une vraie carte postale, surtout. C'est magnifique comme endroit. C'est une terre authentique, c'est un terroir exceptionnel. Et c'est le paradis des randonneurs. Il y a plein de balades, de petits chemins où on peut se perdre. Donc, restez avec nous ce matin. Prenez un bon bol d'air frais. Faites-vous plaisir. Oubliez tout. Mais surtout, mangez du beurre salé de préférence. Car on va faire le grand écart. On va parler d'Artichaut de Camus et de Kouign-Amann.
Évidemment. Et dans la playlist d'RTL Voyal, il y aura Florent Pagny ce matin.
Suivi mon instinct.
Le très instinctif Florent Pagny, accompagné également de téléphone. Ça, c'est vraiment toi. L'un des tubes de cet été. Le Aiko Aiko de Justin Wellington. Et puis ce classique. 79, Freddie Mercury et Queen, mais aussi Coldplay. RTL vous régale est un garde-manger, mais aussi un jukebox. C'est parti jusqu'à midi et demi.
11h-12h30,
RTL vous régale.
On parle cuisine, on accueillera des artisans, des restaurateurs. Évidemment, dans cette émission, on est en Bretagne aujourd'hui. Louise, vos évidences de la région, vous le disiez il y a quelques instants, l'artichaut, forcément, et pas n'importe lequel.
Bah, je ne savais pas trop dans quel ordre vous parlez de l'artichaut et du Kouign-Amann, donc je me suis dit, on va faire plus détox.
Faire light pour commencer, vous avez raison.
Parce qu'en Bretagne, on cultive surtout le plus gros, le plus volumineux des artichauts, c'est-à-dire le Camus de Bretagne. Il faut uniquement 2 ou 3 têtes pour faire 1 kilo, donc c'est
c'est du costaud. Hein.
Donc là-bas, il est cultivé dans des artichautières. C'est joli, hein? On le cultive, donc sa saison est assez courte. La récolte s'effectue de mai à juin et c'est une plante méditerranéenne. Elle a été introduite en France par Catherine de Médicis qui l'apporta de son Italie natale lorsqu'elle épousa Henri II. Donc c'est l'artigeau, c'est pour vous expliquer d'un point de vue terroir, c'est l'évolution du chardon sauvage et en Bretagne il se plaît énormément, c'est même un des légumes phares avec le chou aussi évidemment.
Qu'est-ce qu'on en fait? C'est très amusant dans un champ d'artichaut parce qu'on ne sait jamais à quoi ça ressemble. C'est très amusant de voir cette plante qui en fait est effectivement un peu comme un chardon avec cette grosse boule au bout d'une tige très dure et qu'on va décapiter comme ça quand on va la récolter.
Mmh. Et c'est beau surtout les couleurs, c'est champs, c'est magnifique.
Les fleurs d'artichaut aussi sont très jolies à un moment donné. Qu'est-ce qu'on en fait en cuisine justement de cet artichaut Camus?
Ben, si on reste fidèle au pays d'Iroise, on peut faire un artichaut Camus sauce bretonne. Donc vous allez faire cuire les artichauts dans une grande casserole d'eau salée, portée ébullition pendant 30 minutes, égoutter les artichauts, bien sûr mettre la tête en dessous pour que l'eau coule, enfin s'en aille. Et enfin, pour sublimer cet artichaut, vous pouvez préparer une sauce avec des câpres hachées, des cornichons et des fines herbes.
C'est pas
délicieux.
Mal, ça. Avec une petite vinaigrette.
Vous pouvez mettre un peu de moutarde dans votre vinaigrette. Voilà.
Vous disiez que dans l'ordre, vous alliez faire artichaut Camus, c'est fait.
Oui.
Et puis évidemment, l'incontournable.
Ah bah oui, le Queen Yaman.
Le slogan de cette émission aujourd'hui est manger du beurre.
Bah écoutez, vous savez ce que c'est que du beurre. Bah,
Queen Yaman, c'est du beurre avec du beurre.
Bah c'est ça, c'est Queen qui veut dire gâteau et Yaman qui veut dire beurre. Ça ressemble à une galette dont le diamètre n'excède pas une vingtaine de centimètres. Une épaisseur de 3-4 centimètres, donc c'est un gros palais. C'est croustillant parce que c'est caramélisé, c'est une texture qui est un peu dense. Pour vous expliquer un petit peu, c'est des pâtes de pâtes feuilletées, des couches de pâtes feuilletées où on met du beurre, on met du sucre et hop, on refait un tour et on remet du beurre, on remet du sucre et on replie tout ça. Donc c'est évidemment ultra régime pour une émission en plein mois de juillet.
Quand évidemment.
On est sur la plage en maillot de bain. C'est vraiment tout un art, c'est traditionnel. Alors, son origine est localisée en Cornouailles, plus précisément à Douarnenez.
Ah oui.
Mais bon, toutes les autres pays de Bretagne le revendiquent aussi, donc on est un petit peu perdu avec ça.
On ne va pas rentrer dans ce débat. Oui, voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat, au risque de ne pas nous faire que des amis. Hein.
Bah, en tout cas, il paraît que c'est un boulanger de Douarnenez qui s'appelle Yves René Scordia, qui aurait inventé la recette en 1865.
On marche sur du beurre.
Non, mais une époque où la farine manquait, alors que, souvenez-vous, on en a déjà parlé dans cette émission, le beurre, il y en avait à profusion. Donc c'est comme ça qu'est né ce gâteau. Alors pour d'autres, ils disent que cette tourte est un dérivé d'un pain sucré des Norvégiens qui était présent en Bretagne, qu'on dégustait avec des sardines. Donc ça, je sais que ça peut mettre un appétit, Jean-Sébastien. D'autres ont cru reconnaître un gâteau du Léon assez similaire. Enfin bref, donc il y a quand même pas mal de versions. On n'est pas encore certain d'où ça vient, donc il faudra peut-être quand même qu'on aille mener l'enquête.
Vous disiez c'est une espèce de gros palais, c'est vrai que c'est assez roboratif. Il faut insister sur le fait qu'on en trouve dans les boulangeries et les pâtisseries en Bretagne en format individuel. Et j'insiste là-dessus parce que je trouve le nom délicieux.
J'étais sûre.
Non mais oui.
Dites-le.
La couignette.
Ah, c'est mignon.
J'aime bien l'idée de rentrer dans une boulangerie et de demander une petite couignette.
Enfin sinon c'est... Alors il y a Yann Kefelec quand même qui m'a appris 18 fois à prononcer le nom officiel. Si on dit Queen Yaman, c'est Yann Kefelec, donc quand même il fait référence.
Référence, oui.
Qui prononce Queen Yaman.
Pardon.
Queen Yaman.
Queen Yaman.
Qui veut dire le beurre. Et surtout, c'est très pratique à rapporter.
Mais du coup, Louise, elle prononce beurre bizarrement. C'est veut dire le beurre. Le Queen Yaman, c'est le beurre.
On aurait pu vous en parler aussi dans les choses à rapporter. Vraiment, ça se conserve, c'est pratique, c'est dans des jolies boîtes.
C'est quand même le truc, le Queen Yaman, c'est à manger quand ça sort.
Quand c'est tiède.
Quand c'est tiède encore, c'est un truc de dingue.
C'est
quand même le seul truc où on est capable. Moi, je suis capable de manger du beurre. C'est parce que c'est effectivement du beurre et du sucre. Hein. C'est régressif à un point. Vous retombez en enfance.
C'est-à-dire, c'est tellement de beurre que je suis surpris que ça n'ait pas été inventé à la Grande Motte. Je vous le dis franchement.
Ah mon Dieu.
Ça aurait été un beau témoignage. Ça aurait été un très bel hommage. Dites-moi, vous mangez du beurre, vous mangez ce que vous voulez. En un mot, commençant, suivez votre instinct. Voici Florent Pagny sur RTL.
Je ne suis pas de ceux qui changent le monde, d'autres le font pour moi. D'une vie qui dure que quelques secondes, j'ai fait si peu de choix. Je n'ai suivi que des sirènes, de mes cinq sens, le sixième, j'ai trouvé des hasards, quelques routes vers quelque part. Ce n'est que mon chemin, mais c'est de là que je viens. J'ai suivi mon instinct. Je n'ai rien d'un ange, j'ai rien de ces héros. Je vais où est ma chance, sans pouvoir étrange, sans aile dans le dos. Pour ne pas tomber, j'avance. J'ai cherché l'amour loin devant, je me suis trouvé en passant. Détour d'un après, elle était où je l'attendais. Ce n'était qu'un frisson, mais mon cœur était certain. J'ai suivi mon instinct. Tout bien mieux que les autres diront que c'est du vent. Je ne suis qu'un homme sans Dieu ni apôtre. Je gagne ou bien j'apprends. J'ai marché au son d'une voix, un grand fil tendu sous mes pas. Sans croyance ni prière, j'ai touché un bout de lumière. Ce n'était qu'un instant, mais j'en ai fait mon destin. J'ai suivi mon instinct. Mon instinct. Quand tout finira sans l'ombre d'une ombre, petit, ne m'en bien plus que tu ne penses. C'est de là que tu viens, mais tu feras ton chemin si tu suis ton
l'instinct. Premier extrait de ce nouvel album de Florent Pagny, entièrement produit et réalisé par Calogero. On attend l'album avec beaucoup d'impatience. Il est annoncé pour l'automne prochain. Florent Pagny sur RTL.
RTL vous régale. 11h-12h30.
RTL vous régale.
Nous sommes dans Bretagne, à la pointe du Finistère, ce matin, avec RTL vous régale jusqu'à midi et demi. On va faire un petit tour, Jean-Sébastien, parce que c'est l'homme de tous les petits tours dans cette émission. Un petit tour à Ouessant. C'est très jolie île.
Oui, c'est une île qui est à 45 minutes du Conquet en bateau. Si on part de Brest, c'est 1h30. 2h30 si la mer est un petit peu démontée. Bon courage à ce moment-là.
Ouais. Surtout si vous avez mangé du cougnamon.
Amon.
Alors généralement, il vaut mieux partir avec le ventre plein.
C'est vrai, hein, ouais. Enfin, ça dépend de quoi aussi.
En attendant, c'est la terre la plus occidentale de la métropole. C'est la vigie entre la Manche et l'Atlantique, la dernière escale avant l'Amérique. Un bloc rocheux de 8 km sur 4, habité à l'année par... 850, 860 personnes qui regardent le continent avec un certain dédain. Mais Ouessant est réputé pour ses tempêtes, est réputé pour ses brumes de légende. Il y a aussi des récifs effroyables et meurtriers. Et puis, il y a ces courants redoutables comme le Fromver, la grande frayeur en breton. C'est l'un des courants les plus puissants d'Europe. pour apprécier Ouessant, il faut pas faire comme le touriste lambda, arriver le matin, repartir le soir. Il faut y rester quelques jours pour profiter de l'île le soir, lorsque justement la majorité des touristes a repris le dernier bateau. Surtout, il faut vivre un petit matin à Ouessant. C'est un truc totalement dingue. C'est encore plus dingue qu'un coucher de soleil. Et j'exagère pas une seconde. Il faut aller vers le nord, à la pointe de Perne, avec ses paysages tourmentés. C'est là que se trouve sans doute le coin le plus impressionnant de cette île de Ouessant, sous le regard vigilant du phare de Créac, véritable emblème de l'île. Il a été édifié en 1863. Une portée de plus de 60 km. C'est un des phares les plus puissants au monde. Quand il s'allume au crépuscule, c'est tout simplement époustouflant. Les rayons balayent la mer. Les paysages mystérieux de l'île prennent des reliefs qui changent en permanence à chaque coup de lumière, à chaque trait de lumière qui passe. Vous avez l'impression d'avoir des fantômes, vous avez l'impression d'avoir des formes qui naissent et qui s'effacent. Et puis le matin, la côte sud offre des cartes postales aux images un peu plus douces, avec des criques, avec des plages abritées. On pourrait penser à l'Irlande, d'autant qu'à l'intérieur des terres, vous avez des murets de pierres sèches qui séparent les parcelles. C'est une île qui possède une histoire, qui possède une culture propre liée à la mer, mais pas à la pêche. Parce que les courants étaient tellement forts que on n'a jamais développé l'activité de pêche sur l'île de Ouessant. Les Ouessantins étaient des agriculteurs, c'était des éleveurs, ils étaient des marins dans la marine marchande. Mais effectivement, jadis, les hommes quittaient pour de longs mois cette île. Ils laissaient leur famille. C'était les femmes qui devaient assurer la subsistance et qui devaient assurer la bonne vie de l'île d'Ouessant. C'est une île très particulière en Bretagne. C'est une île dont on tombe très facilement amoureux. Pour peu que vous soyez un peu contemplatif, quand vous arrivez à Ouessant, vous avez énormément de mal à reprendre le bateau pour retrouver la vraie vie.
C'est pas Jérémy Le Troadec qui va dire le contraire.
Quelle belle description.
Ah, c'est joli, hein.
Description. Oh, non, mais j'ai envie de prendre un bateau. J'ai envie de prendre un bateau et d'y aller à Ouessant. Là, j'ai envie de partir de Brest, là où je suis. Je vais quitter Max-Epris, je vais aller à Ouessant.
Vous avez raison. Je vous présente.
Avec des crêpes,
hein.
En deux secondes, Jérémy Le Troadec, artisan crêpier. Vous êtes à Brest.
Exactement.
Vous êtes le patron de la crêperie, l'ambassade bretonne en plus.
L'ambassade. Ouais. Ah, l'ambassade bretonne, c'est
voilà.
On a toute
la
couleur.
On a tout dit. On a tout dit.
Exactement. Mais je trouve que la description que vous venez de faire, honnêtement, bravo. Bravo,
ouais.
Bravo.
Merci.
Il a beaucoup de talent.
Merci.
On doit le reconnaître.
Ouais, bon après, c'est des années de pratique, hein, je veux dire.
Je rêve.
Il n'y a rien d'improvisé, hein, je veux dire, ça fait 30 ans qu'il bosse le texte aussi. Hein.
Ouais. Dites-moi, Jérémy, l'histoire de votre crêperie, parce qu'elle est intéressante, elle vaut le coup d'être racontée. Vous, à un moment donné dans votre vie, vous avez toujours un drapeau breton au fond de votre sac, vous partez au Japon, et au retour du Japon, il se passe un truc.
Ouais, bah en fait j'étais au Japon à faire un peu la fête, tout ça, à Tokyo avec des amis japonaises que j'avais rencontrées quelques années plus tôt à Paris. C'était des hôtesses de l'air. Je les retrouve à Tokyo, hop, on mange des sushis sur le port de Tokyo. Je suis invité, tout va bien. Et au retour de Japon, j'arrive à Brest et là j'ouvre ma crêperie avec mon frère. Donc moi je savais pas encore faire de crêpes, mais je voulais ouvrir une crêperie. Et on ouvre et tout se passe pas trop bien parce que on fait que 50 euros de chiffre d'affaires. Donc on se dit là on est mal barré.
Mais vous avez les hôtesses de l'air.
Exactement, j'ai les hôtesses, donc tout va bien. Et voilà, et on a commencé le 16 mai 2017 à Brest et là on ouvre on va établir 10 boutiques.
Ah oui.
10 boutiques en 4 ans, ouais.
D'accord. Non mais vous vendez pas des produits détaxe comme les hôtesses de l'air avec les chariots, hein. Vous vendez produits bretons, faut préciser quand même.
Bien sûr. Ah oui, et nous on est des artisans. C'est-à-dire qu'on est vraiment des artisans crêpiers. On fait tout. On est mince en oignon. On épluche nos pommes de terre. On les coupe. On fait vraiment tout nous-mêmes. Quoi. C'est vraiment un métier de passion. Quoi. Nous, on a grandi dans l'agriculture. On est issu du monde paysan. Donc, on a un respect des matières premières. On fait tout nous-mêmes.
Jérémy, puisque vous gérez l'ambassade bretonne, j'ai envie de vous dire monsieur l'ambassadeur.
Oui.
si vous deviez être le porte-parole de la gastronomie bretonne, vous diriez quoi ?
Moi, je dirais que c'est un respect déjà de l'agriculture, la filière. On en parle un petit peu, on les met un petit peu en valeur, mais je pense qu'on les oublie très vite. On se rend pas compte que quand on mange dans une assiette, il y a tout un travail derrière. Moi, j'ai mes grands-parents, ils étaient agriculteurs. J'ai vu mon grand-père ramasser du maïs, se traire sa tâche, c'est très dur. Et on peut pas se rendre compte tant qu'on n'a pas vécu là-dedans, ou on n'a pas été voir une ferme, on peut pas se rendre compte. Donc moi, je fais ça aussi pour rendre hommage à mes grands-parents qui ne sont plus là, mais j'espère que de là-haut, ils sont fiers de moi et de mon frère, parce que j'ai créé ça avec mon frère. Et c'est grâce à cette éducation que j'ai eue là avec mes grands-parents ou avec mes parents qui me permettent d'aujourd'hui d'être un petit peu reconnu sur Brest et de faire de bonnes choses. On utilise des bonnes farines, on achète du sarrasin récolté en Bretagne, c'est du sarrasin IGP bio. La farine de froment, c'est bio. Nos oignons, c'est de Roscoff. On les épluche, on les émince, on les caramélise avec du sucre. Nos pommes, c'est pareil. Enfin, on fait tout nous-mêmes. On a une très bonne saucisse.
Ah,
Château Giron, il est
C'était ma question.
Voilà, galette saucisse, c'est vraiment ce qu'on vend beaucoup, et c'est une très bonne saucisse. C'est un artisan boucher qui nous les livre toutes les semaines, et nous, on prend plaisir à les cuire, quoi.
C'est pas tout, hein. Il y a la galette saucisse. Vous connaissez la super complète?
Non,
la
allez-y.
Super, ouais.
Ah, super,
la super complète, celle-là, elle est lourde. Hein. Celle-là, je pense qu'après, il n'y a pas trop besoin de dessert. C'est jambon, emmental, œuf, et après, on rajoute des champignons, des tomates et des oignons caramélisés.
Ah oui.
Voilà.
Elle est super, cette complète.
Ouais, ah bah ouais.
Jérémy, ça marche tellement bien, et vous avez tout résumé, des beaux produits, ouais. Des produits de ouais. qualité. Vous avez surfé sur la crise de manière totalement incroyable. Ouais. Vous ouais. avez prouvé qu'on peut faire du chiffre d'affaires en s'adaptant, et qu'avec la qualité, ça passe pratiquement inaperçu en fait.
On pense que en faisant de la merde, on gagne plus d'argent, c'est pas vrai. Déjà, les clients viennent une fois, ils reviennent pas deux. Et en faisant de la qualité, d'une part, quand on vend le produit, moi, mes équipiers, je rends hommage à tous mes employés qui travaillent pour l'enseigne. On est quasiment une quarantaine. Je rends hommage à eux, je pense fort à eux, parce que c'est eux qui épluchent les oignons, c'est eux qui servent les clients, c'est eux qui font le service, qui dorent le logo de l'ambassade bretonne. Et c'est tout un travail. Ça coûte pas plus cher de faire de la qualité. Et on s'y retrouve, parce qu'après on fait des gros services. La plus grosse boutine, on tourne à 400 couverts par jour, donc c'est un rendu que nos clients nous font chaque jour à venir et revenir.
Il y a une chose, j'ai toujours été persuadé qu'il fallait faire de la crêpe l'emblème de la gastronomie française. Les Italiens ont créé la pizza, les Japonais ont créé le sushi, les Américains ont fait le burger. La crêpe est le truc le plus fédérateur qui soit pour envahir le monde. C'est une évidence.
Est-ce qu'on envahit le monde est-ce qu'on décide d'envahir le monde avec des crêpes ou des galettes?
Les deux.
Il va falloir choisir, les gars, à un moment donné. Bon, en tout cas, si vous êtes dans le coin, si vous êtes en Bretagne, si vous êtes du côté de Brest, passez voir monsieur l'ambassadeur.
Ah bah oui,
monsieur l'ambassadeur, Jérémy Le Troadec.
Pardon ?
Ah, vous êtes ouvert à Paris ?
Oui.
Rue Jean Jaurès ?
Non. À Paris, c'est 25 rue Bréant en face de la Rotonde. On essaye de faire venir le président parce qu'on sait qu'il va à la Rotonde boire son café. Mais du coup, on essaye de le faire venir. Mais
écoutez, c'est pas compliqué. Jérémy, je vous laisse 15 secondes sur l'antenne d'RTL ce matin en direct. Peut-être que le président Macron. Non, il est en Polynésie, là.
Oui, là, il est
dans il y a l'appli RTL. Je rappelle qu'avec l'appli RTL, on peut écouter la radio partout dans le monde.
Manu, il faut que tu viennes à l'ambassade bretonne.
Non, ça peut pas commencer comme ça, pas par Manu.
Monsieur le président,
monsieur l'ambassadeur.
Président, j'ai envie de vous dire, il faut traverser le trottoir. Vous traversez le trottoir et vous venez à l'ambassade bretonne.
Jérémy, j'ai de la pub qui arrive à 30, donc je dois vraiment vous laisser.
Et je
reprendrai pour la lancer vos propos il y a quelques instants. On peut faire du chiffre d'affaires en ne faisant pas de la merde.
Jean, 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
RTL vous régale, RTL vous conseille, RTL vous offre...
Vous accompagne.
Bah oui, des petits tours de passe-passe aussi. Loïs Petit-Renaud,
oui.
Les challenges du jour sont signés par Didier Delorient,
oui.
Qui galère avec son film alimentaire.
Mais ça, c'est vrai que c'est contraignant.
C'est-à-dire
ça nous est tous arrivé.
Pour décoller le rouleau de film alimentaire, pour prendre la première feuille, c'est une...
Moi, je peux rester des longues minutes à faire ça et je suis agacée.
Mais je pourrais aussi rester de longues minutes à attendre votre solution.
Réponse, ouais. Parce que j'en ai une, figurez-vous.
Mais j'imagine.
Et ben, vous mettez tout simplement votre rouleau de film alimentaire dans le réfrigérateur. Et le froid va faire que ça va se décoller plus facilement.
Ah bon ?
Oui. preuve. Flagra-
mais flagrant, genre, oui. Vous prenez le truc. Et
essayez, dire... essayez.
Vous allez chez Louise.
Ouais.
Il y a des
rouleaux dans le,
ouais. dans le frigo.
Moi, ce qui me rend fou, c'est pas tellement que ça se décolle pas, c'est que parfois je ne vois même pas où se trouve le joint.
On est tous concernés ouais. par ce problème.
Natacha est à Cravant, en Charente-Maritime. Comment obtenir une crème pâtissière? T'as vu comment j'ai fait le. Le gars qui ne sait pas, qui ne sait pas si on met le S ou pas. Elle est à Cravant, en Charente-Maritime. Comment obtenir une crème pâtissière plus savoureuse?
Alors pour qu'elle soit plus savoureuse, mais surtout aussi plus onctueuse et plus aérée, plus légère, aérienne, il faut remplacer le sucre par du miel. Et en plus, c'est meilleur, ouais,
c'est meilleur
santé.
Pour la santé. Manger du miel, parce que vous disiez c'est manger bon. Du beurre, manger du miel,
oui,
c'est
manger
important.
Du beurre aussi, quand même.
Vous aimez le comté?
J'adore ça.
J'adore ça aussi. Comment le conserver plus longtemps? Question alors, de Marie-Cécile à Bandol.
Et ben moi c'est ma tante qui est Clermont-Ferrand fait ça. Vous enveloppez votre fromage à pâte dure, ça s'applique pour les autres aussi, dans un linge préalablement imbibé de vin blanc. Mmh. Et donc ça va le réhydrater, il va se sentir bien ce petit comté et il va durer.
C'est un truc de votre tante de Clermont-Ferrand ouais. ça. Votre tante mytho. Hein, qu'on embrasse. Vous voulez lancer des challenges à Louise Petit-Renaud? Envoyez par SMS le mot régal suivi de votre message au 64-900. Dans un instant, encore un ambassadeur. Décidément, aujourd'hui, il se succède, mais ils ne se ressemblent pas tous. Vous allez voir, elle s'appelle Corinne Leru. Elle coordonne les visites des phares de Trézien et de Saint-Mathieu. On va vous en parler. Phare Terre en vue, évidemment. Ce sera juste après Jean-Louis Aubert et Téléphone en 1982. Ça, c'est vraiment toi. C'est RTL vous régale, c'est tous les jours de l'été pour vous plaire, pour vous régaler. 11h, 12h30. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Un je ne sais quoi qui me laisse tôt. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Mais autour de moi, tout tourne si rond. Des balles doux, doux, des bagnoles, au rythme.
que toi. Ça se sent que c'est toi. Ça, c'est vraiment toi. Jean-Louis Aubert et téléphone sur RTL.
11h, 12h30. RTL vous régale.
11h, 12h30.
RTL vous régale.
Nous sommes en Bretagne dans RTL vous régale. On a parlé de Kouign-Amann. On
parle de chaud.
Alors, il y a le phare.
Oui. Ah, mais le...
Attention. Le phare breton, mais pas celui que vous croyez. Bonjour Corinne Leroux.
Bonjour l'équipe.
Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Alors, vous avez compris évidemment qu'on va parler des phares, mais PH, évidemment, vous qui coordonnez les visites de ces phares de Trésien à Plouarzel et le phare de Saint-Mathieu aussi à Plougonvelin. Parce que c'est vrai, Corinne Leroux, la mer d'Iroise, selon la formule, c'est sans doute une des mers les plus éclairées au monde.
C'est vrai. C'est la plus grande concentration de phares. Et de tous les côtés, on en voit. Donc moi, je me présente. Donc je suis Corinne. Moi, ça fait 13 ans que je suis tombée dans le monde des phares. Et donc mon employeur est la communauté de communes du pays d'Iroise. Mmh. Et depuis 2007, on a en gestion communautaire le phare Saint-Mathieu. Et donc depuis 2017, le phare de Trésien à Plouarzel.
Qu'est-ce qui vous fascine justement? Parce que vous dites, je suis tombée dans les phares. Mais ça veut dire quoi? Il y a eu à un moment donné une fascination qui s'est exercée sur vous pour ces endroits?
Eh ben, j'ai dû changer de métier, hélas, des petits problèmes santé. Mmh. Et au tout hasard, donc j'ai vu une annonce, j'ai postulé et je suis tombée dedans. Je crois que quand qu'on commence à un petit peu gratter sur le monde des phares avec toutes les légendes aussi qu'on peut lire sur certains phares, ça donne envie d'en savoir plus.
Un mot sur le phare de Saint-Mathieu, justement, le phare Saint-Mathieu, allumé depuis 1835.
Tout à fait, donc 4 ans de construction, et ce qui est assez rapide pour l'époque. Donc il a 163 marches, il fait 37 mètres de haut. Et donc le Pays d'Iroise, vous avez le GR34 qui passe devant, qui fait donc 90 km de côte, qui longe tout le Pays d'Iroise, et baigné par l'océan Atlantique et la Manche.
Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est de se dire que la plupart de ces phares ne sont plus habités par les gardiens, ils sont automatisés.
Il n'y a plus de gardiens de phares.
Il n'y a plus de gardien de phare.
Il n'y en a plus aucun en France ? Nulle part ?
Non, certains font office de gardien, notamment au phare de Cordouan. Ouais. Et ils s'occupent plus donc de la maintenance et des visites également. C'est une surveillance.
C'est une tragédie pour moi, parce que moi j'ai rêvé quand j'étais gosse d'être gardien de phare. J'ai failli acheter un phare il y a quelques années parce que la plupart du temps les maisons de gardiens sont à vendre maintenant.
Il a piqué un phare à un moment donné aussi. Je l'ai vu d'ailleurs, j'étais là.
Et je trouve que c'est un des endroits les plus romantiques et les plus fabuleux qui soit, un phare. Avoir un phare, c'est un sémaphore, c'est le rêve, c'est un rêve
c'est
total.
Vrai. Oui.
C'est l'ouverture sur un voyage.
Je vous confirme. Oui, donc les propriétaires, donc c'est vrai que c'est l'État, c'est notamment Phare et Balise. Ouais. Et donc c'est vrai qu'on a la gestion et on en est ravis. Au moins on fait vivre le phare. Eux s'occupent de tout ce qui est technique d'allumage, de faire en fonction que tout fonctionne bien.
Moi je suis d'accord avec Jean-Sébastien quand il dit que c'est fascinant, parce que c'est pas pour rien que certains phares en France et ailleurs aussi d'ailleurs sont devenus pas des hôtels mais des endroits dans lesquels on peut loger.
Oui.
Parce qu'il y a une espèce, je sais pas, il y a une dimension particulière à passer une nuit dans un phare.
Ah ben surtout un phare en mer, ça c'est le rêve de tous. Mais
ça
là,
fait peur quand même.
Ça fait peur. C'est vrai ce que disaient les anciens gardiens, le pire c'est pas la solitude, c'est le bruit. Notamment les phares qui étaient équipés d'une corne brume, ou quand lors de tempêtes, les vagues qui s'éclatent sur le phare et le vent. Et c'est ça qui était plus dur pour eux.
Et puis la solitude du gardien de phare, c'est un peu il y a un truc mystique là-dedans.
C'est ça, mais après ils étaient tous doués de leurs mains, parce que du coup ils essayaient de s'occuper en faisant des petites constructions, vous voyez, les miniatures de bateaux pour mettre dans les bouteilles, enfin moi ils étaient doués. Il y a même un dans les phares qui s'occupait à rempailler les chaises de l'église, du patelin.
Mmh. Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté les phares? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout ça est automatisé?
C'était devenu dangereux, c'était coûteux aussi. C'était coûteux et la technologie a fait qu'il n'y avait plus besoin en fin de compte.
C'est
dingue. Hein.
C'est exactement
parce qu'à l'époque, c'est vrai, quand il fallait donc veiller à l'allumage, que ce soit au départ des feux de bois, après c'était du charbon de bois, du pétrole, de l'huile. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même une dangerosité et ça encrassait. Il y avait beaucoup d'entretien à faire. Mmh. Et c'est un feu qui s'allumait, hélas, un peu trop souvent. Donc il fallait veiller. Et du fait qu'il a été électrifié, et notamment les lentilles de Fresnel, qui ont fait toute la différence.
C'est fou de se dire qu'aujourd'hui, on est à la limite d'allumer et éteindre les phares en mer avec des applications de smartphone.
Mais c'est exactement ça.
Voilà.
Non, mais je sais.
Le phare de Trésien, c'est de la LED, hein, depuis déjà quelques années. Hein.
Tiens, justement, ça aussi, c'est toute la technologie qui a fait avancer. C'est que les ampoules, il n'y a plus à changer les ampoules avant avaient une durée de vie qui était très limitée. Parce que
Saint-Mathieu, c'était maximum, c'était un an.
Voilà. Donc, aujourd'hui, avec la LED, c'est que déjà les portées sont plus importantes.
Oui.
Et la durée de vie a été multipliée par 100.
Il y a un truc assez génial qui a eu lieu hier soir, je pense. C'est la nuit du phare.
La nuit du phare. Oui.
Et là, pendant ce temps-là, pendant cette nuit-là, justement, on peut visiter en nocturne ces phares. Ça a lieu deux fois par mois.
Surtout l'été, hein, parce que cause météo aurait été des fois c'est un peu compliqué à cause du vent notamment. Donc deux fois en juillet, deux fois en août. Donc les gens montent à la nuit tombée. Toutes les 30 minutes, donc un groupe de 20 personnes. Et le guide là-haut, justement, le font découvrir la lentille en action. Donc on voit cette lentille qui tourne avec un silence, donc qui baigne qui flotte, on va dire, sur le mercure. Hein. Mmh. Hein, donc c'est vrai que ça fait zéro bruit, on voit la motorisation et là on se rend compte tous les phares et les balises que l'on a en fonction autour de nous.
C'est un truc assez génial à visiter avec les enfants, c'est vraiment des visites à faire en famille je pense.
Oui. Oui, parce que les derniers visiteurs sont montés à minuit et demi, sont redescendus à 1h du matin.
Ah bah ouais.
Donc c'est vrai qu'il faut être courageux pour attendre son tour. Mmh.
Corinne Leroux, je rappelle que vous coordonnez les visites des phares de Trésien à Plouarzel et de Saint-Mathieu à Plougon-Velin.
Allez, je pense à ça. Il y a mon pote Michael Canitro qui est DJ, qui a monté un concept absolument génial qui s'appelle le Monumental Tour, qui a fait un concert, une session de concert de musique électronique avec un mapping sur le phare des Poulains. Sur l'île de Ré, c'était il y a quelques semaines. C'est sur YouTube. Vous allez taper Monumental Tour, vous aurez ça. C'est une heure absolument phénoménale. Et on se rend compte qu'un phare, ça peut être un endroit de rêve total si on l'habille de lumière, alors qu'il diffuse lui-même sa lumière à son sommet. C'est magnifique.
Et je rectifie, c'est Belle-Île-en-Mer.
Oui, autant pour moi. C'est pas les Poulains, c'était sur l'île de Ré.
Corinne, vous en faites pas, c'était pour placer qu'il a des amis DJ.
D'accord.
Merci beaucoup, on vous embrasse, on vous souhaite un bel été, Corinne.
Merci à vous.
Et regardez les amis, regardez dans le rayon de la lampe du phare de Trésien, on approche l'un des gros succès de cet été. Justin Wellington. A small jam, Aiko Aiko, sur RTL.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want party, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, Aiko Aiko ane, chucking more fina anane, chucking more fina ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze with big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now. Aiko, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Okay, your mama, ngwele. Step on the dancing floor. Hips be winding, detail rewinding. Take it to the island way. Okay, your baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take it to the jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make this place go higher? Talking about hey now. I go on it. Chucking more fina on it. Chucking more fina on it.
Let me take it from here. Salaman girls straight up right. Hootie mama make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm jamming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me tapping on me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We jamming the island way.
Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me 2x2, and now we're shining bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Ani. Talking more fina, Anani. Talking more fina, me.
Yes, one drop it, drop it low now. Take it to the max now. Jump in the small time way. Wind it.
Wind up, go down, twist your body backwards.
We go
left, left, we go right, right. Turn it around and forward.
Wind and go down again.
Wind up, go down, twist your body backwards.
Twist it back.
We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward.
My bestie and your bestie, dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now,
hey now,
hey now.
De la compilation Les Artistes, RTL 2021, c'est 40 tubes de l'été réunis sur deux CD. La bande son de votre été, Justin Wellington et Small Jam sur RTL.
RTL vous régale jusqu'à
12h.
RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Et au loin se dressent les échoppes des plus beaux marchés d'RTL vous régale. Voilà. Nous sommes en Bretagne, forcément terre de marché aussi, Jean-Sébastien.
Où
ça ?
Où est-on ?
On est à Lenven.
Et c'est bien pour le S ?
Ah zut !
on est à Lenven.
Comment ?
Lenven.
Lenven.
Oui, parce qu'on dit Rosporden. Et en fait, on dit 1 quand on est à l'intérieur des terres et N quand on est sur le bord des mers, comme Pont-Aven.
J'avais une chance sur deux.
Voilà. Et c'est un, il y a un proverbe.
Vous allez me le payer ça.
Je sais, mais en même temps, il fallait pas me chercher tout à l'heure.
Il n'a pas digéré les copains DJ. C'est ça le problème. Il règle ses comptes automatiquement.
Comme dit un proverbe breton, si la terre est vieille, elle n'est pas folle. Et justement, dans ce district de Brest, cette ville de Lenven et avec ses 7300 habitants et niché au cœur des terres bretonnes, aux confins du Finistère, y a un marché là-bas tous les lundis de 8h à 18h qui, en été, regroupe 200 commerçants qui installent leurs échoppes sur les 4 places et dans les rues de la ville. C'est un marché qui est le plus important du Finistère. C'est le grand déballage des marchands ambulants qui s'ancre dans l'histoire de la cité. C'était une ville de foire qui a accueilli jusque dans les années 60 un marché aux animaux avec des bovins, des cochons, des moutons. Aujourd'hui, il y a quelques restes de cela parce qu'il y a encore des poules, des canards et des lapins. Mais c'est un marché ultra traditionnel qui s'étale sur la place du Général Leflot, sur la place du château et tout autour. C'est un lieu de rencontre, de dégustation. Au détour d'une rue, on découvre des vendeurs de fruits, de légumes qui viennent tout droit de chez les producteurs. C'est même souvent les producteurs, les gens qui viennent de leur jardin, qui ont trop de choses dans leur jardin, qui viennent le vendre. Il y a des crustacés, il y a des poissons, des coquillages, évidemment du fromage, de la charcuterie. Vous avez, on va vous vendre du kigafars, tout fait, ça c'est fin délicieux. On va vous vendre de la crème fraîche, du beurre demi-sel comme ça, la motte qui aurait été barattée il y a quelques heures. Et puis vous avez plein de marchands également, de vêtements, de bijoux, de cuir. C'est vraiment un marché absolument génial, le marché de Lenven, qu'il faut aller découvrir quand on est dans le Finistère, du côté de Brest et du Pays d'Iroise.
Vous êtes prêts pour le défi frigo ?
Bah ouais.
C'est dans quelques instants. Je vais vous présenter Laurence, qui est en Loire-Atlantique. Il va vous donner l'ingrédient du jour pour 2 recettes originales. A tout de suite sur RTL.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
C'est l'instant défi frigo du jour avec Jean-Sébastien et Louise pour un nouvel affrontement.
Oui.
Et je parle d'affrontement, vous avez bien entendu, parce qu'aujourd'hui, moi je connais l'ingrédient, je sais ce que Laurence va nous proposer. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous.
Je parle d'affrontement parce que vous allez mettre sur la table du défi frigo ce midi quelque chose qui va, à mon avis, créer un fâcheux précédent. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Si. Laurence, vous êtes à
Missillac.
En Loire-Atlantique.
Oui.
Vous avez un jardin.
Exactement.
Dans ce jardin, vous avez
5 poules.
Et donc, elle donne.
Et donc, j'en ai marre de faire des omelettes et des œufs à la coque. J'aurais besoin d'une idée brillante pour utiliser mes œufs à bon escient, que ce soit un peu plus original que d'habitude.
D'accord.
Et quand je dis que vous allez créer un fâcheux précédent, c'est parce que j'ai à ma droite le sieur Petit Demange, qui est considéré dans cette émission depuis la nuit des temps comme, puisqu'on parle d'ambassadeur beaucoup aujourd'hui, c'est l'ambassadeur de l'omelette.
Mais donc, il ne va pas faire une omelette, puisque Laurence en a marre des omelettes.
Puisque c'est attendu et que l'omelette, ça ne fonctionnera pas. Donc, Laurence, face à Jean-Sébastien Maître S. Omelette, il y aura Louise Petit-Renaud qui fourbit ses armes. Ça a l'air simple. Ça l'est. Des œufs.
Deux recettes
originales dans quelques instants. Vous ne bougez pas. Je rappelle que vous êtes en piste aussi pour un week-end magnifique à l'hôtel Golf et Spa de la Bretèche, maison Relais Château, hôtel 5 étoiles, Laurence.
Et vous savez où il est ? Il est à Missilla.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. Il est chez vous. Il est chez vous. Vous connaissez l'endroit par cœur. Elle est partie.
Elle est à l'hôtel.
Je pense qu'elle est déjà dans le Relais Château en question. On va retrouver Laurence dans quelques instants. Bon, des œufs.
Oui.
On s'en parle dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Oui. Vous écoutez RTL, le défi frigo arrive juste après l'info, puisqu'il est midi.
12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Avons-nous retrouvé Laurence ?
Excusez-moi.
Elle est là.
Je suis émue parce que je voulais vous dire que le cadeau que vous offrez cette semaine, je passe devant toutes les semaines et je rêve d'y aller avec mon mari. C'est tellement beau, mais pas très accessible, en tout cas aujourd'hui pour nous. C'est un rêve, je croise les doigts.
Mais ça veut dire que vous n'y êtes jamais même entrée ?
Jamais. Je suis rentrée pour faire la curieuse, pour voir le château qui est juste à côté. Mais malheureusement... pas encore au restaurant.
Bon, j'aime beaucoup l'idée de vous envoyer là-bas en week-end. Après, c'est le hasard. Hein. Vous savez qu'il y a un tirage au sort vendredi.
Alors, mais je croise les doigts.
Week-end magnifique à l'hôtel Golf et Spa de la Bretèche, maison Relais Château, je le disais, hôtel 5 étoiles. C'est pas à vous que je vais faire l'article, Laurence. Vous connaissez l'endroit mieux que nous. On est dans les 200 hectares du domaine de la Bretèche. Chez vous, à Missillac, on est en quoi ? C'est quoi, entre Nantes et Vannes ?
C'est plus vers Saint-Nazaire. C'est un petit peu plus près.
D'accord. Ouais. C'est pas loin des plages du Morbihan.
Vous avez une demi-heure de Saint-Nazaire, vous avez 20 minutes de Saint-Brévin, Pénican, etc.
C'est ça.
Vous avez le golf, vous avez les petits commerces à côté, il y a une super boucherie, il y a des bons restaurants, une super crêperie à Missillac. Venez, c'est génial Missillac.
Voilà, elle est élue ce matin directrice de l'office de tourisme de Missillac. Et alors, je vous dis qu'en plus, Jean-Pierre Honorin, qui est le chef du Montaigu, le restaurant gastronomique de l'endroit, vous attend avec un menu dont vous allez nous reparler si c'est vous qui avez le bonheur de séjourner là-bas. Je vous dis bonne chance, des œufs, ceux de vos poules en plus. En espérant qu'ils vous portent chance, on va voir ce que mes deux camarades vous ont pondu. Il y a deux recettes originales à base d'œufs ce matin. On commence avec Jean-Sébastien.
Laurence, je vais vous faire une de mes recettes préférées que j'ai au monde.
Attention.
Avec des œufs. Je vais vous faire des œufs bénédicts.
Ah oui.
C'est la chose la plus fabuleuse. C'est un tout petit poil compliqué sur une chose, la sauce hollandaise. Mmh. Alors, vous prenez une casserole d'eau, une casserole avec un fond d'eau. Vous mettez vos jaunes d'œufs et vous cuisez vos jaunes d'œufs en sabayon, c'est-à-dire à feu très doux, en les fouettant régulièrement, délicatement. Un sabayon qui est bien monté, c'est lorsque vous voyez le fond de la casserole apparaître quand vous fouettez les œufs. À partir de ce moment-là, vous retirez du feu. Vous continuez à fouetter pendant une petite minute. Vous ajoutez à ce moment-là un beurre que vous aurez clarifié juste avant, c'est-à-dire le faire fondre doucement, vous écumez. Prenez ce beurre et vous ajoutez, vous continuez à fouetter comme ça hors du feu. Vous salez, vous poivrez, vous mettez un petit jus de citron. Et vous le posez, vous posez votre sauce hollandaise qui sera mousseuse dans un bain-marie pendant le temps que vous allez griller des muffins, faire vos œufs pochés. Il n'y a rien de plus simple. De l'eau, un peu de vinaigre. Vous faites pocher vos œufs après avoir fait un vortex d'eau pour pas qu'ils collent. Vous posez un peu de beurre sur vos muffins. Vous posez les œufs pochés. Vous allez ajouter, tiens, vous allez aller à votre boucherie prendre deux tranches de lard gras ou de pancetta, enfin ce qu'ils ont pour faire griller. Vous posez ça sur l'œuf. Vous ajoutez, vous nappez généreusement avec votre sauce hollandaise.
Hop, on lève les mains.
Et un petit peu.
Hop, hop, hop.
Et, hop, hop, hop. Et un petit peu de persil. Hop, 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 émincé.
C'est un grand classique, mais c'est vrai que c'est vortex d'eau. On peut préciser de quoi il s'agit?
Bah, vous faites tourner l'eau.
Voilà, c'est le tourbillon, quoi. Oui, voilà, le tourbillon. Non, mais ça me fait marrer parce que vous dites, ouais, les œufs pochés, c'est facile. Je trouve qu'il n'y a rien de plus compliqué de réussir qu'à réussir un œuf poché sans que le blanc parte en cacahuète partout dans la casserole. C'est pas
parce
si
que
évident.
L'eau est trop chaude.
Non, c'est la quantité de vinaigre.
82. Pas plus de 80 degrés l'eau. Il faut pas que l'eau boue.
Faites des œufs pochés, Laurence?
Mon mari, oui, pas moi.
Il est réussi. À quoi il ressemble?
Mon mari?
Non. Est-ce qu'il est poché?
Les œufs pochés. Il est fait de toute beauté et lui aussi, en l'occurrence, c'est une beauté.
Oh, quel beau témoignage!
Je sais qu'il m'entend, alors je lui dis des mots doux. Voilà.
Non, vous avez raison, d'autant que son ex s'appelle Bénédicte. Ah, Laurence! Attention!
Et je l'emmerde!
Ah, j'adore! Face à ces œufs bénédicts de Jean-Sébastien, voici la recette de Louise. 1 minute 30.
Alors, moi, je vais vous proposer un roulé, enfin déroulé de lard aux œufs et au curry. Donc, c'est un peu du style une omelette, mais.
Elle ne peut pas le dire comme ça.
Pimpé. Voilà. Donc, vous allez fouetter des œufs dans un saladier, ajouter du gruyère, de la ciboulette, du curry. Je ne sais pas si vous connaissez le mélange œufs-curry, ça marche super bien. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Vous salez, vous poivrez, vous mélangez tout ça. Vous allez peler un oignon que vous allez faire revenir dans une grande poêle avec un petit peu d'huile. Et ensuite, vous allez verser ce mélange d'œufs sur votre poêle pour faire comme des petits muffins ou pancakes. Vous voyez, donc pas trop épais. Vous allez bien dorer les deux parties et puis vous allez rouler tout ça avec un petit cure-dent, emballer le tout dans du bacon et puis voilà, l'affaire est dans le sac.
C'est ça. Donc on a une espèce d'omelette, pour qu'on comprenne bien.
Un roulé.
Une omelette roulée.
Oui, un roulé.
D'accord.
Un roulé doré, enrobé d'une robe de lard.
Et donc votre omelette doit avoir la forme d'un boudin.
Exactement.
C'est pas facile techniquement ça. Hein. Sans
casser. Avec le cure-dent. Ouais. Astuce, cure-dent.
Laurence?
Pour moi c'est évident.
Oh.
Pardon Jean-Sébastien.
Oh là là là.
Louise, vous m'avez parlé de curry et a priori ça paraît plus simple, moi qui ne suis pas très très forte, et ce week-end j'ai ma belle-mère, il faut que je brille à l'apéro, ce sera parfait.
Eh ben parfait, voilà.
Je ne suis pas convaincue, mais...
Merci Laurence, et j'espère que je vous porte chance.
Merci beaucoup.
Jean-Seb,
c'est dommage.
Ça sent l'écurie.
C'est dommage. Laurence aurait pu aller dans le très bel hôtel.
Oh non.
Vous savez que je vous regarde à la quotidienne sur France 5 ou pas?
C'est dommage aussi alors parce que c'est fini.
Je sais malheureusement, mais chacun ses arguments. Mais...
Est-ce que vous avez vu Louise Petit-Renaud dans Mon gâteau et le meilleur de France?
Je suis désolée, mais pas. Non, voilà. je n'ai pas regardé. Mais il y a des replays, il y a Internet.
C'est dingue, vous venez.
J'ai pas votre cas.
Ouais, c'est-à-dire que là, mais les chances, ça me nuise, évidemment, pour le tirage au sort de vendredi.
Non.
Je charrie.
Je pense que vous allez vous rappeler de moi parce que j'ai été drôle et j'ai 39 ans.
Ah non, mais je rêve.
J'y vais à fond.
Mais bon, vous avez bien raison.
On se reparle peut-être vendredi, Laurence.
Je croise les doigts. Alors, à vendredi.
Je vous embrasse. Et je vous rappelle que RTL Vous Régale est en Bretagne aujourd'hui. Et je vais vous en donner la preuve. Freddie Mercury avait des origines bretonnes. Oui ou non, vous l'avez?
Bah non.
Queen Yaman.
Sortez.
C'est pas possible.
Sortez.
Passing by like Lady Godiva, I'm gonna go
Les vocalistes de Freddie Mercury, Queen, à l'instant, Don't Stop Me Now, en 79, c'est sur RTL.
11h-12h. RTL vous régale, avec Jean-Michel Zeka.
Et c'est comme ça tout l'été, chaque jour, 11h, 12h30 en direct sur RTL avec Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. Les amis, parce qu'il y a lieu de parler d'amis, nous allons vous distiller des conseils
d'amis.
Bien sûr. Que rapporter à la maison de votre séjour à la pointe Finistère, Jean-Sébastien?
On peut rapporter, il y a du pain doux, c'est un gâteau annuel, ça fait partie de ces pains qu'on trouve de manière un peu au hasard comme ça dans les boulangeries qui en font encore. Le pain doux, c'est un pain qui à l'époque qui date de l'époque des gras, qui précède le carême. On en trouve. C'est un pain qui est pas tout à fait brioché.
C'est pas au gâteau.
À quatre quarts. Bah c'est un peu des deux. C'est un produit qui est solidement ancré dans la tradition. Je vous dis, c'est pas un pain brioché. C'est un peu, ça fait un peu quatre quarts. On a aromatisé parfois la cannelle. On peut, quand ça s'appelle le pasté chou, c'est fourré avec du raisin sec ou des pruneaux. En tout cas, ça fait partie de ces traditions de pain très particulières et qu'on trouve dans toute la Bretagne et là pour le coup dans le Finistère. Et c'est à goûter parce que ils ont un vrai savoir-faire. Ils ont osé des choses en Bretagne pour faire toutes ces différentes sortes de pains, comme le gochial, il y en a un peu partout comme ça.
Sur les côtes bretonnes, évidemment, on ramasse
des salicornes.
Voilà.
C'est cette fameuse algue. Donc vous allez prendre votre pain doux, mettre un peu de beurre de micelle et rajouter les salicornes. Donc c'est une algue qui se trouve sur les côtes bretonnes. La période propice pour la trouver, ça se situe entre mai et juillet. Alors elle se mange crue en salade, nature, en vinaigrette ou juste poêlée avec une bonne viande rouge. Elle est très bonne pour la santé parce qu'elle est gorgée de vitamine C, A, minéraux. Elle est très peu calorique, donc on peut y aller. On l'appelle aussi salicot, haricot de mer, cornichon de mer ou alors encore passe-pierre.
C'est le passe-pierre aussi, ouais, effectivement. C'est important de le préciser. Ça, c'est la même chose, en fait.
Il y en a beaucoup autour de la pointe de la Torche, sur la presqu'île de Penmar, de la salicorne.
Dites-moi, à Plougastel, il y a un musée de la fraise, non ?
Il y a non seulement un musée de la fraise, mais il y a surtout une production de fraises.
C'est pour ça que j'en parle.
Parce qu'il y a un climat extrêmement doux. Il y a un vrai microclimat. Les garitiguettes se retrouvent sur les étals dès le début du printemps. Ça fait partie de ces fraises au goût inimitable. Et Plougastel d'Aoulas, effectivement, a mis à l'honneur sa fraise dans un musée de la fraise et du patrimoine grâce à une association qui gère ce musée, ce qui permet de découvrir toute l'histoire de la fraise avec Jean-Médé Fraisier, qui n'a pas fait exprès de s'appeler comme ça pour la rapporter de l'autre côté des Atlantiques.
Vous connaissez Michael Motreff, si pas je vous le présente, c'est le patron des Fumaisons d'Iroise. On file au Conquet ce matin dans RTL Vourial. Bonjour Michael.
Bonjour à vous.
Bienvenue sur RTL. De la terre, de la mer, du feu et un savoir-faire local qui est le vôtre, celui de la saucisse fumée.
C'est ça, tout à fait. On est spécialiste de la saucisse de Molène et de la saucisse de Westland. Donc, une qui est fumée aux algues et une qui est fumée à la tourbe.
C'est intéressant parce que justement, Louise parlait d'algues il y a quelques instants. Vous les fumez justement à base de cette salicorne ?
Non, pas du tout. Nous, c'est des algues qui viennent de l'archipel de Kémenes, qu'on trouve sur les plages, qui sont séchées. Un peu comme du goémon, si vous voulez.
Et d'accord. Elles ont un petit goût iodé, du coup, c'est ça ?
Très léger, mais vraiment pas. On ne ressent pas du tout. C'est la façon de faire, en fait, si vous voulez, qui est ancestrale du fumage de cette saucisse-là, en fait.
D'accord.
Alors, vous, votre spécialité, donc on l'a compris, c'est le fumage, mais pas qu'aux algues. Hein, vous fumez un peu.
On fume à la tourbe
à
aussi.
À la tourbe aussi, ouais.
On fait des filets mignons nature fumés, donc nous, on les fume aussi aux algues. La poitrine de micelle aussi, pareil, fumée aux algues. Et après, on a aussi une gamme de saucisses fraîches, donc une saucisse bretonne classique comme une chipot. On a aux oignons de Roscoff.
C'est quoi les petites saucisses apéro que vous faites ?
Alors, on a la mini molenette et la mini westantine. C'est des saucisses de molène et saucisses de westan, mais qui font 10 grammes pour vraiment justement tout ce qui est cocktail, apéritif.
C'est vous qui avez inventé ou ça existe ?
Non, ça vient de chez nous. Il y a que nous qui faisons ça.
Qu'est-ce qu'on fait avec des saucisses ? Oui, dites-moi, j'en sais rien.
Non, ce qu'il faut expliquer, parce que vous le dites, Ouessant, c'est la tradition du fumage à la tourbe, parce qu'il n'y avait pas d'arbres sur Ouessant, donc on a développé cette façon de cuire les aliments, et notamment dans un ragoût d'agneau, le fameux ragoût d'agneau d'Ouessant, qui est cuit comme ça, on met la cocotte au milieu de la tourbe qu'on a fait sécher, et ça donne un ragoût qui cuit pendant une douzaine d'heures, et c'est quelque chose de tout à fait traditionnel. Et sur Molène, c'est le varec, c'est le goémon qu'on fait sécher. Et du coup, on travaille et on fume avec le goémon. Ces deux techniques qui sont endémiques, qui sont vraiment traditionnelles sur ces deux îles totalement différentes. Et ça a donné ces deux produits qui sont très, très typiques et très typés.
Et qui ont l'air très bons.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on fait avec ces saucisses fumées ? Est-ce qu'elles se cuisinent ?
Tout à fait, vous pouvez les faire donc soit sur un cassoulet breton ou même dans des galettes bretonnes, ou alors sinon vous pouvez...
Attendez, je vous interromps parce qu'un cassoulet breton...
Oui.
Parce que je connais personnellement le couscous irlandais, mais... C'est quoi un cassoulet breton, dites-nous ?
Si vous voulez, donc c'est là par exemple pour 4 personnes, il faudrait 500 grammes de coco de pimpol épluché.
Ouais, c'est un bon début.
Donc c'est pas du tarbet.
C'est ça, 4 saucisses de molène, donc de picolène, la nôtre. Un oignon, donc de préférence de Roscoff.
De Roscoff, oui, bien sûr.
Sel, poivre et laurier.
Ça a l'air bon.
Cassoulet breton. Vous nous donnez des idées. Franchement, c'est sympa. Y a d'autres spécialités dans la région, parce que c'est une région de production de viande aussi. On va en parler dans quelques instants. Merci d'être venu faire un petit tour chez nous, Michael Motreff, les Fumaisons d'Iroise au Conquet. C'est ouvert tous les jours en ce moment, pendant le mois de juillet et août.
Alors nous, on est ouvert toute l'année. On fait de la vente en direct, dans des grandes surfaces, restaurants. Et on a un site internet aussi, j'invite tout le monde à venir voir.
Si vous êtes attiré par le fumé, vous n'êtes pas loin de chez Michael Motreff. Voilà,
et des saucisses fraîches aussi, bien sûr. Pour l'été, pour les barbecues, ça peut être bien. Et les saucisses fumées peuvent être faites au barbecue aussi.
Ah
oui, non, mais ça c'est génial.
C'est une bonne nouvelle.
Bien sûr. Merci, bonne journée à vous.
Ben merci bien et bonne journée à vous aussi.
Du coup.
À bientôt.
Et à bientôt. Au revoir.
Alors, il y a le cassoulet breton, il y a le pot-au-feu breton, j'en sais pas.
Le Kigafars, qui derrière ce nom, on dit viande, ça traduit viande et farce. C'est un plat typique du Nord Finistère, un pot-au-feu breton, pourrait-on dire, avec des viandes mijotées, avec les légumes du jardin. La vraie différence, c'est qu'en fait, il y a une farce qui est constituée de farine de blé noir et de farine de froment qu'on cuit dans un sac de tissu. Tout ça s'imprègne du bouillon. Et c'est absolument sublime à manger avec, vous le coupez en tranches quand vous servez, vous posez votre Kigafars dessus. C'est magnifique. Et puis, il y a également le bar de ligne de l'île de Saint, parce qu'on n'a pas parlé, on a parlé de Saint au début. Le bar de ligne de l'île de Saint qui est quelque chose d'absolument génial. Et puis, tout ce qui est fruits de mer, le homard qu'on trouve là-bas en mer d'Iroise est sublime. Vous savez que le homard, c'est un crustacé. Il faut de l'eau froide. Il sort de son rocher quand l'eau atteint les 12 degrés.
Attention, mime de homard. Oui.
Très bien fait.
Il sort la nuit pour se nourrir. Il faut qu'il fasse 12 degrés pour qu'il sorte de sa léthargie. Et à partir de là, on peut trouver ces homards qui sont bleutés, qui deviennent tout rouges une fois qu'ils sont cuits. Le homard breton est un truc, mais c'est au-delà du caviar, quoi. C'est magnifique.
RTL vous régale. Dieu que la France est belle.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30.
RTL vous régale.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Et la bonne habitude d'RTL vous régale pour terminer l'émission, c'est de faire ce petit pas de côté avec Jean-Seb.
Sur l'île de Molène, une petite île d'1,2 km sur 800 mètres de large. Il y a quelques petites maisonnettes construites en amphithéâtre, une église, un petit port donc qui fait dans le Goémon aujourd'hui. Mais Molène se distingue surtout car on a toujours refusé là-bas de vivre à l'heure officielle. On vit à l'heure du soleil là-bas. On vous dira que c'est de la résistance qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale lorsque les Allemands ont imposé l'heure de Berlin dans toute l'Europe, dans toutes les zones occupées. Et nous vivons toujours à l'heure de Berlin. Ceci dit, c'est vrai que Molène est un bout du Trident et du coup, s'ils subissent l'heure de Paris, donc de Berlin, quand à Strasbourg, le soleil se couche fin juin vers 22h, il y a encore une bonne heure et demie de jour à Molène et donc on a un peu l'impression de voir le soleil de minuit. Donc, quelque part, revivre à l'heure du soleil, c'est pas mal. À Ouessant, on vit à l'heure officielle, mais lorsque le crépuscule arrive, on en a parlé tout à l'heure, le faisceau du phare de Crac se met à tourner. Le balai des faisceaux sécurise toute la côte, une côte qui est absolument essentielle. C'est un des éléments importants de la vie ouessantine, ce phare. Et ces phares dévoilent tous leurs secrets dans le musée qui est au pied du phare de Crac. Et ce secteur de Brest, où il y a 23 phares, 63 feux, 14 stations de radionavigation et plus de 250 bouées lumineuses. Le musée des phares et balises de Ouessant vous retrace toute cette histoire fascinante. Toute l'évolution des systèmes d'éclairage, du réchaud à charbon aux lampes à huile, avec ces énormes ampoules à incandescence de 6000 watts. Et puis aujourd'hui, les LED qui ont remplacé et qui sont devenus la technique ultra moderne qui fait qu'effectivement, on peut allumer un phare avec son smartphone depuis l'autre bout du monde pratiquement. Un phare dans la nuit, c'est peut-être un peu comme un vaccin dans nos vies, quelque part. Ça sécurise tout le monde, ça rassure et c'est bien.
11h12.
Alors, à ce soir.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Je vous l'avais dit, il serait intéressant de rester dans notre sillage aujourd'hui en Bretagne, parce que du chalutier, il est quand même tombé quelques trucs intéressants.
Bah oui.
Ça me rappelle la pub des sardines avec Eric Cantona. Vous vous souvenez, avec les mouettes. C'est un petit peu ça, RTL vous régale tous les jours. Demain, est-ce que tout le monde a son baluchon? Parce que
oui.
Nous partons en voyage.
Ah, et on est content.
Demain, nous allons vous retrouver en direct depuis le domaine de Chaumont-sur-Loire pour le Festival International des Jardins. RTL est partenaire de ce festival. On vous en parlera en long et en large. On vous souhaite une très bonne journée. Vous écoutez RTL, il est 12h30.